Suivez le Salon des maires et des collectivités locales du 19 au 21 novembre 2024 depuis le stand du gouvernement en partenariat avec Radio Territoria.
Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons en direct pour ce deuxième jour du Salon de la biodiversité et du génie écologique qui se déroule conjointement au Salon des maires à la Porte de Versailles. Cette première émission de cette journée, réalisée en partenariat avec les ministères des Territoires, de l'Écologie et du Logement, est consacrée à la biodiversité en Outre-mer ou la connaissance au service de l'action et de la mobilisation. Nos territoires ultramarins sont le fleuron de notre biodiversité nationale, mais sont fragilisés par les activités humaines et menacés par les diverses pressions, avec bien sûr les bouleversements créés par le changement climatique, les pollutions diverses ou encore les espèces exotiques envahissantes. La connaissance est essentielle pour permettre de partager une vision d'ensemble des enjeux liés à la biodiversité, afin que chacun, élu, résident, acteur du territoire, puisse s'impliquer à son échelle pour la préservation de cette biodiversité exceptionnelle. Et pour en parler, ce matin, nous avons le plaisir d'accueillir sur notre plateau trois invités de premier plan, avec tout d'abord Pauline Dussutour, qui est chargée de projet animation, conception de contenus digitaux sur la biodiversité des Outre-mer au sein de l'unité Patrinat. Sylvie Gustave-Di Duflo, vous êtes présidente du conseil d'administration de l'OFB, qui est l'Office français de la biodiversité, vice-présidente de la région Guadeloupe, vice-présidente de la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbes, présidente de l'Agence régionale de la biodiversité des îles de Guadeloupe et enfin présidente du comité eau et biodiversité de Guadeloupe. Et à vos côtés, on a le plaisir de recevoir Jean-Philippe Delorme, directeur du Parc national de La Réunion. Bonjour à tous les trois et bienvenue dans cette émission. Et je vous rappelle que vous pouvez, chers auditeurs, poser vos questions en direct. Nos invités du jour y répondront avec plaisir en fin d'émission avec l'appui d'Hélène Parmentier, que je salue, qui est chargée de mission mobilisation des territoires à la Direction générale de l'aménagement du logement et de la nature. À tout à l'heure, Hélène. Je me tourne vers vous, Pauline Dussutour, pour commencer cette émission. Est-ce que vous pouvez nous préciser quelle est la mission du compteur biodiversité Outre-mer?
Alors, bonjour. Un petit peu de contexte. D'abord, le site du compteur biodiversité Outre-mer a été imaginé en 2018 aux Assises des Outre-mer avec la volonté d'avoir un outil qui puisse faire un focus sur les territoires ultramarins. Et donc, il a été lancé en 2021. C'est un portail d'information qui donne à voir la biodiversité dans les territoires ultramarins, qui a plusieurs objectifs. Le premier, c'est de partager la connaissance scientifique avec des indicateurs, des chiffres clés, des informations. C'est aussi valoriser des projets, des initiatives qui sont menées dans les territoires ultramarins par des acteurs locaux. C'est aussi sensibiliser évidemment à la biodiversité dans ces territoires qui est extrêmement riche. C'est aussi montrer cette biodiversité, montrer aussi les enjeux et les menaces qui pèsent sur la biodiversité. C'est mobiliser les citoyens. Pour ça, on a des petites fiches pour adopter des bons gestes pour préserver l'environnement au quotidien, mais aussi un recensement des programmes de sciences participatives tous les citoyens peuvent s'impliquer. Voilà, c'est un site qui a pour but d'être un peu un outil de référence et d'information sur la biodiversité dans les territoires ultramarins.
Oui, c'est un outil global. Il n'y avait pas de choses auparavant, c'était un petit peu éparpillé, c'est ça? La connaissance était un petit peu diffuse?
Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de sites qui existent au niveau national, mais finalement, la biodiversité de ces territoires, elle est un peu floutée sur en fait, ces sites globaux, alors que ça représente 80% de la biodiversité française. Il y avait la volonté de faire un outil qui permette de mettre en lumière cette biodiversité.
Est-ce que vous pouvez nous dresser un aperçu de l'état de la biodiversité ultramarine avec quelques chiffres pour bien saisir un petit peu les enjeux?
Alors, comme je le disais, elle est exceptionnelle. Hein. Elle est bien plus importante que dans la France hexagonale. Je l'ai aussi dit, c'est 80% de la biodiversité française.
Ça veut dire qu'on a tendance à le sous-estimer, ça? On n'a pas assez en tête ce chiffre-là?
On l'a certainement, mais c'est vrai que ça veut dire qu'il y a aussi de forts enjeux de préservation. Et quelques chiffres, c'est alors déjà, on parle des territoires d'outre-mer, mais ils sont très différents. Hein. Faut savoir qu'ils sont sur 3 océans. Ils sont de la zone polaire à la zone équatoriale. C'est pour la plupart, pas tous, mais des territoires insulaires. Donc un fort taux d'endémisme, donc des espèces qu'on trouve nulle part ailleurs. Une grande richesse, une grande diversité. Quelques chiffres, c'est un peu moins de 19 000 espèces endémiques dans les territoires ultramarins. Et pour comparaison, c'est 4 000 en France hexagonale. C'est là où on a le plus de nouvelles espèces qui sont décrites. 80% des espèces aujourd'hui sont découvertes dans les territoires ultramarins. C'est à peu près un peu moins de 500 par an. Espèces qui sont décrites, donc il y a un fort enjeu de connaissance. C'est aussi 16% des espèces qui sont menacées ou éteintes. Donc il y a aussi, avec des forts enjeux comme par exemple la problématique des espèces exotiques envahissantes, donc il y a aussi un fort enjeu de préservation sur ces territoires.
Ça, c'est une vraie réalité, ces espèces exotiques envahissantes. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus
C'est 60 espèces parmi les plus envahissantes sont présentes sur les territoires ultramarins. Donc oui, c'est une forte problématique qui en fait engendre une perte de biodiversité importante. Et du fait du fort endémisme de ces territoires et du fait qu'en fait on a des espèces qui sont présentes uniquement sur ces territoires-là, évidemment, c'est une problématique qu'il faut prendre à bras le corps.
De quelle manière votre équipe travaille-t-elle et quels sont les liens que vous avez tissés avec ces territoires ultramarins, avec ce compteur biodiversité ?
Alors, le compteur biodiversité outre-mer a toujours eu la volonté d'être un outil qui est partenarial. Donc, les acteurs locaux sont impliqués à tous les niveaux. Alors, premièrement, pour la remontée de données, c'est leurs données qui sont valorisées pour la mise à jour de nos indicateurs. Ensuite, on a des portraits de territoires qui font le récit et présentent les territoires ultramarins. Là aussi, ils sont rédigés par des acteurs locaux.
C'est-à-dire, c'est une description vraiment réelle de la situation, c'est ça ? Qu'est-ce que vous entendez par indicateur ?
Portrait de territoire ?
Oui.
Ce sont des récits, alors c'est des informations, il y a plein d'informations différentes sur les espèces emblématiques, les écosystèmes, l'histoire naturelle de chacun des territoires. Et là, ça a été des choix qui ont été faits par des acteurs locaux qui ont décidé d'y faire figurer ce qu'ils avaient envie d'y faire figurer et ce qu'ils pensaient être le plus important. Donc voilà, il y a déjà ça. Et ensuite, on valorise des programmes de sciences participatives qui sont pour la plupart portés par des acteurs locaux. Les sciences participatives, c'est des programmes qui sont utilisables par tous les citoyens. Tous les citoyens peuvent se mobiliser pour améliorer la connaissance scientifique. Voilà, c'est des observations sur le terrain qui permettent d'apporter une meilleure connaissance. Donc là encore, c'est des portages d'acteurs locaux. Et on a aussi une rubrique qui sous forme de publication. Donc c'est soit des articles, des reportages photos ou encore des entretiens. Et là encore, c'est exclusivement des acteurs locaux qui s'expriment parce qu'on estime qu'évidemment, c'est eux qui parlent le mieux de leur territoire et de leurs actions en faveur de la préservation de la biodiversité.
Sylvie Gustave Didufleau, vous êtes vice-présidente de la région Guadeloupe, en charge de l'environnement, de l'eau et du cadre de vie, présidente de l'Agence régionale pour la biodiversité des îles de Guadeloupe et présidente de l'Office français de la biodiversité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la genèse du projet La planète revisitée des îles de Guadeloupe ?
Écoutez, l'Agence régionale de la biodiversité des îles de Guadeloupe, c'est une jeune agence. Et elle a été créée en 2021 et elle est devenue opérationnelle au 1er février 2022. Et en avril 2022, l'équipe du Muséum national d'histoire naturelle de Paris vient à notre rencontre en nous disant « On a un projet de planète revisitée des îles de Guadeloupe, une expédition océanographique et terrestre. Et nous avons bien entendu votre critique en tant que vice-présidente de la région Guadeloupe que les territoires, il n'y avait pas de projet de territoire, mais un projet de sachant, de scientifique. Donc on voudrait associer l'agence. Et pour tout vous dire, on n'avait qu'un stylo, on n'avait même pas encore de bureau à l'agence. Et je me suis dit, c'est une opportunité qu'il ne faut pas laisser passer. Une opportunité à mobiliser nos scolaires, nos étudiants, le grand public autour de ce projet d'envergure qui est un inventaire d'espèces en milieu marin et en milieu terrestre sur ce qu'on appelle la biodiversité négligée, c'est-à-dire tout ce qui va être fonge, mousse, lichen, mais également les insectes, les batraciens, les reptiles. Et puis, pour le marin, c'était jusqu'à 200 mètres de profondeur sur tout ce qui était biodiversité centimétrique ou microscopique. Et je me suis dit, ben allez, on y va. Il nous a fallu 3 ans pour monter ce projet. Et sur les fonds européens qui nous ont appuyés à 85% et sur du mécénat, nous avons eu beaucoup de mécénats qui nous ont accompagnés. Nous avons monté un projet de 1,9 million d'euros sur cette expédition où nous avons mobilisé 118 chercheurs du terrain, du marin et du terrestre sur les îles du sud de la Guadeloupe, à savoir l'archipel des Saintes, Marie-Galante, Désirade et la réserve naturelle de Petite Terre.
Alors, ce projet est basé donc sur la connaissance, sur la formation, mais en quoi va-t-il aider le passage à l'action ?
Je crois profondément que la biodiversité qu'on protège, c'est la biodiversité que l'on connaît. Et aujourd'hui, il faut que le citoyen soit acteur de cette biodiversité. Et en fait, le projet de mobilisation citoyenne que nous avons construit autour de ces scientifiques, eh bien, ça a été des conférences inaugurales. Nous avons invité la population à venir découvrir ce que ces scientifiques en short, qui allaient déambuler sur nos îles, pouvaient nous apporter. C'est la mobilisation de nos scolaires. 1500 scolaires sont venus à la rencontre des chercheurs. Nous avons lancé un appel à manifestation d'intérêt pour des écoles de la Guadeloupe proprement dite, pour 25 écoles, et nous avons eu 1508 écoles qui ont répondu. Nous avons également emmené nos étudiants. Et ça, c'était mon plus grand vœu, puisque je suis enseignant-chercheur à l'Université des Antilles. Nous avons emmené 200 étudiants de la filière écologie, de la première année de licence jusqu'au M2, au contact des chercheurs. Donc, ils ont dormi, ils ont vécu avec les chercheurs pendant quelques temps. Et pour tout vous dire, ils n'avaient plus envie de revenir dans les salles de cours.
Alors, c'est un projet assez exemplaire, hein, basé sur la connaissance. Pour vous, c'est la première brique, la connaissance, pour passer à l'action ?
La connaissance et l'appropriation de cette connaissance. Et c'est vrai que l'UMR Patrinat aussi était présent. Et c'est vrai, ce qu'il faut savoir, c'est que ces îles ont un fort taux d'endémisme. Les deux précédentes expéditions avaient permis la découverte de 284 nouvelles espèces, dont 84 qui étaient endémiques en Guadeloupe, c'est-à-dire qu'on trouve nulle part ailleurs dans le monde qu'en Guadeloupe. Et là, d'ores et déjà, je vous annonce, puisque nous avons eu l'expédition s'est terminée jeudi dernier, nous avons eu une première restitution. Et là aussi, les données s'annoncent exceptionnelles avec beaucoup de nouvelles découvertes.
En tout cas, l'ambition au départ, c'est vraiment d'en faire un projet de territoire pour que toute la population locale soit sensibilisée et mobilisée.
Exactement. Nous avons fait des journées portes ouvertes dans ces îles du Sud où il n'y a pas beaucoup de population. Et à chaque fois, il y avait une centaine de touristes, de résidents qui sont venus à la rencontre des chercheurs. Et puis, nous avons eu une couverture médiatique exceptionnelle. Et sincèrement, je crois que notre plus grande réussite, en fait, c'est que les Guadeloupéens, dans leur ensemble, se sont appropriés de ce projet. Et la planète revisitée des îles de Guadeloupe était devenue le projet des citoyens guadeloupéens.
Alors, on va partir à La Réunion à présent avec Jean-Philippe Delorme, qui, je le rappelle, est directeur du Parc national de La Réunion. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous dire comment a émergé le projet Réminat ? Quelle est la logique de ce projet ?
Alors, le projet Réminat, c'est un projet en fait, qui fait partie de quelque chose de plus vaste, qui est un projet intégré de conservation et de restauration des habitats naturels à La Réunion. Et le projet Réminat, il est en fait la partie recherche-développement de ce projet global. effectivement, la question de la connaissance, elle est centrale. Elle est centrale, mais elle doit se faire aussi en fonction d'objectifs de gestion. Vous parliez tout à l'heure de en quoi la connaissance va servir l'action. Et ce qui est intéressant dans le projet qu'on met en œuvre, c'est qu'en fait, on est vraiment dans un consortium gestionnaire chercheur. C'est-à-dire qu'on construit les questions de recherche aussi en fonction de des questions auxquelles on a à répondre sur le terrain. C'est-à-dire qu'il y a une question de granulométrie de la connaissance qui nous permet de passer à l'action très rapidement. C'est-à-dire, en plus, très souvent, mais bon, ça c'est aussi lié à la façon dont la recherche est organisée, il y a un manque de transversalité dans la production de connaissances. Or, nous, les questions de recherche qu'on construit, elles sont assez baroques, elles sont assez particulières parce qu'elles sont très transversales. Et c'est vraiment ça qui est intéressant. On travaille avec le CIRAD, on travaille avec l'université, mais vraiment en faisant en sorte de construire ces questions en amont, ce qui nous permet également d'avoir un temps de réponse entre production de connaissances et action qui est très court, et de pouvoir rétroalimenter en fait notre réflexion sur l'action par les résultats de notre action et par les résultats de la recherche. Donc on est toujours sur cette espèce de boucle rétroactive qui nous permet d'être plastique dans la façon qu'on a d'envisager les problèmes.
Est-ce que vous avez des exemples concrets, justement, de recherche actuelle?
Oui, complètement. Sur la question des exotiques envahissantes, puisqu'on en parlait, on est vraiment à La Réunion en train de changer de paradigme. C'est-à-dire que pour nous, la lutte contre les espèces envahissantes n'est pas une fin en soi, mais c'est bien pour essayer de restaurer les fonctionnalités des milieux. Donc on a tout un travail à faire sur jusqu'où il est intéressant d'intervenir et de rétablir les fonctionnalités de façon à faire en sorte que le milieu soit résilient et qu'on puisse s'affranchir de la lutte. Donc c'est vraiment ça qu'on essaie de trouver comme équilibre, et c'est encore un domaine de recherche qui est à creuser.
Un autre exemple, peut-être, pour bien mesurer la dimension?
Alors, la dimension, déjà, on a 57 000 hectares sur lesquels il faudra intervenir. Donc vous imaginez, en plus, sur un gradient de 0 à 3 000 mètres, avec des situations extrêmement différentes en termes d'écosystème. Donc à La Réunion, on a la malchance d'un côté d'avoir des situations très diverses, donc des problématiques très diverses, mais en même temps, c'est intéressant de pouvoir travailler sur toutes ces problématiques-là. On travaille par exemple sur un aspect particulier qui est celui de la Jonde d'Europe sur un espace qui est un espace plutôt altimontain. Et c'est vrai que là, ça nous permet, à travers un certain nombre d'expérimentations qui sont mises en œuvre, notamment une gestion post-incendie d'un espace sur les hauts de l'île de La Réunion, de tester des méthodes nouvelles. Et là, on est vraiment en train de regarder comment le feu peut être un outil aussi pour gérer les exotiques envahissantes et savoir ce qu'il faut faire dans la continuité de l'incendie, de façon à pouvoir réellement rétablir cet équilibre entre la dynamique invasive et la dynamique des endémiques. Et c'est intéressant aussi.
Alors, sur ces espèces invasives, est-ce que vous pouvez nous faire un petit peu un état des lieux aujourd'hui? Quelles sont ces espèces? Il y en a combien? Et quelles sont les principales avancées à ce jour en matière de connaissances et de cette dynamique des espèces invasives?
Il y en a une soixantaine d'espèces, comme ça avait été dit précédemment. À La Réunion, il y a une soixantaine d'espèces. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que nous, on priorise aussi par rapport aux espèces qui sont les plus transformatrices, c'est-à-dire celles qui vont vraiment changer le plus, altérer le plus la fonctionnalité des habitats. Parce que vous pouvez avoir des espèces invasives, mais non transformatrices. Donc celles-là, on se dit, bon, ok, d'accord, elles sont là. De toute façon, c'est peut-être pas la peine de mettre beaucoup d'efforts parce qu'on n'a pas suffisamment d'argent pour intervenir sur tout. Donc on va se concentrer sur les espèces particulièrement transformantes. Et ce qu'on a fait, en fait, sur la question des dynamiques, parce que vous avez raison, l'important, c'est d'avoir le temps, l'état dans un temps T, mais également de se projeter dans l'avenir. Donc dans le cadre du travail qu'on a fait, on a des modèles multi-espèces, des modèles dynamiques multi-espèces qui nous permettent de voir à moyen terme qu'est-ce qui va se passer, de façon à pouvoir se dire voilà l'espace sur lequel les choses vont se développer, donc l'espace sur lequel il va falloir qu'on intervienne.
Et quelles sont les conséquences sur vos stratégies de restauration?
Les stratégies de restauration, alors les conséquences sur les stratégies de restauration, c'est de pouvoir mieux prioriser, c'est-à-dire vraiment de se limiter aux espaces où il y a vraiment des enjeux, on peut vraiment faire quelque chose, mais également s'il y a un changement d'échelle, il y a un changement d'échelle parce qu'en fait, on ne regarde pas simplement l'espace naturel, mais on regarde l'espace naturel dans un environnement beaucoup plus large, c'est-à-dire qu'on travaille sur toute la question des interfaces en se demandant ces milieux naturels sont en but à quel type de dynamique espèce invasive et jusqu'où il faut qu'on aille traiter. C'est-à-dire qu'on ne traite pas simplement l'espace, l'habitat, mais on travaille sur toutes les interfaces, tous les espaces qui vont avoir un effet sur notre espace naturel.
Donc on a parlé des espèces invasives. Est-ce que vous pouvez un peu nous faire un état des lieux des défis auxquels vous êtes confrontés sur ce parc-là, des espèces invasives?
Les défis, ils sont variés. Effectivement, il y a des questions d'aménagement. Et quand je vous disais juste à l'instant qu'il fallait travailler sur les interfaces, c'est des interfaces agricoles, ce sont des parcs urbains. Donc en fait, c'est vraiment avoir une vision aménagement du territoire pour avoir les meilleures conditions possibles de conservation de nos milieux. Donc en fait, c'est vraiment des changements d'échelle qu'il faut arriver à opérer. Pas simplement regarder notre espace dans ses limites, mais le regarder dans un contexte. Donc en fait, quand on travaille à La Réunion, on travaille sur l'échelle de l'île, la totalité de l'île.
Sylvie Gustave, qu'est-ce que vous pensez d'une telle action à La Réunion avec ce projet REMINAD, justement, qui permet de mobiliser la recherche sur des choses très concrètes?
Je pense que c'est un excellent projet parce que on passe vraiment des sciences fondamentales à l'application et à la mise en œuvre et sur des thématiques extrêmement concrètes comme les espèces exotiques envahissantes. Je rappelle que c'est la deuxième cause d'érosion de la biodiversité. Et je sais qu'effectivement, sur l'île de La Réunion, la problématique des espèces exotiques envahissantes est extrêmement prégnante. Et donc, je sais également qu'il y a une vraie politique qui est menée, notamment par le parc national de La Réunion, sur ce sujet.
Très bien. Merci beaucoup à vous trois pour ces échanges très riches et très concrets. Et maintenant, on place aux questions des auditeurs et nous retrouvons Hélène pour savoir si nous avons des questions. Hélène.
Oui, Jean, nous avons des questions. Alors, la première question, peut-être pour Sylvie Duflo, quelles sont les retombées attendues de votre projet lié aux connaissances scientifiques? Au-delà de cette partie connaissance, qu'est-ce que vous attendez comme retombée, peut-être en matière de développement de compétences, de susciter des vocations pour la jeunesse?
Exactement. En fait, pour tout vous dire, quand on emmène des enfants comme ça au contact des chercheurs, on espère un jour, il y en a un jour qui aura peut-être, pourquoi pas, le prix Nobel en écologie. Et c'est vraiment ça, c'est susciter la vocation et faire prendre conscience à cette jeune génération le trésor dans lequel ils vivent. Parce que quand on vit au quotidien avec autant de biodiversité, on ne la voit plus tellement, on ne la regarde plus tellement. Et donc, quand on amène ces jeunes, quand on amène ces parents, et quand on amène, ce grand public à regarder avec un œil différent cette biodiversité, on fait beaucoup plus attention. Et puis, il y a aussi des retombées économiques qu'il ne faut pas négliger. C'est 2 millions d'euros que nous avons emmenés sur les territoires des îles du Sud, puisque le projet de territoire, nous l'avons fait avec les marins-pêcheurs locaux, avec les clubs de plongée locaux. Et donc, qui mieux que le marin-pêcheur connaît les meilleurs spots de biodiversité marine et les hôteliers, le transport maritime. Nous sommes sur des îles du Sud, donc également des retombées économiques non négligeables dans cette période, puisque l'expédition a duré 2 mois, ce qui est aussi une expédition hors norme.
Alors, une autre question pour nos grands témoins sur les territoires de La Réunion et de la Guadeloupe. Est-ce que les collectivités sont engagées dans d'autres dispositifs type territoire engagé pour la nature, les atlas de la biodiversité communale? Est-ce que vous pouvez nous les partager?
Oui, effectivement. Alors, pour l'archipel de la Guadeloupe, c'est le seul territoire ultramarin qui est engagé dans le dispositif territoire engagé pour la nature. Qu'est-ce que c'est? Nous emmenons les communes, les communautés d'agglomération qui n'ont pas forcément les moyens ou l'ingénierie à monter des projets de biodiversité, donc à recruter des ingénieurs et à financer des projets. Et c'est pour vous dire que ça se passe tellement bien que ces collectivités que nous accompagnons, l'objectif, c'est de leur donner envie d'avoir faim de biodiversité. Donc vous les engagez dans le processus territoire engagé pour la nature. Comme ils ont recruté un ingénieur, ils ont monté des projets qui ont été financés, ils vont sur les atlas de la biodiversité communale et ensuite ils vont aller sur des projets européens comme le Best Life 2030, par exemple.
Jean-Philippe ?
Oui, alors, effectivement, moi je représente ici un collectif en fait. Et le collectif, ce sont les collectivités, régions, départements, des communautés d'agglomération. le CIRAD, l'université, enfin voilà, c'est vraiment tout un collectif qui te représente. Effectivement, le parc coordonne parce qu'il a une échelle d'intervention qui est plus large, mais de toute façon, c'est bien un collectif que je représente. Je voudrais rebondir sur la question économique. Je crois que c'est vraiment quelque chose d'intéressant et d'important. On voit très bien aujourd'hui à La Réunion, il y a encore un peu de travail à faire, mais en tout cas, c'est certainement quelque chose sur lequel on peut aboutir, qu'il y a des réelles filières en fait, d'ingénierie écologique à monter, de façon à pouvoir intervenir à la bonne échelle sur ces problématiques-là, et ça crée de l'emploi. À La Réunion, le parc a coordonné une étude et on a identifié grosso modo 3000 emplois sur une filière ingénierie écologique qui pourrait donner en fait des perspectives de travail à moyen long terme à un certain nombre de jeunes sur les territoires. Donc c'est aussi quelque chose qu'il faut avoir en tête. La question de la préservation, de la conservation, ce n'est pas simplement la mise sous cloche, c'est réellement de l'économie aussi derrière. Et ça, il faut l'avoir en tête.
Merci. Alors peut-être une dernière question de nos auditeurs pour Pauline du Futur. Quelles sont les perspectives futures du compteur biodiversité outre-mer ?
Alors, premièrement, il y a des publications très régulières. Hein. Deux fois par mois, on fait des publications sur justement les actions, les projets qui sont menés dans les territoires ultramarins. Il y a aussi la mise à jour régulière de nos indicateurs pour avoir une connaissance à jour et l'amélioration toujours de notre site. Dans les toutes prochaines perspectives, il y aura la publication d'un indicateur sur les activités de ponte dans les territoires ultramarins. Il y a aussi une volonté, on a beaucoup de partenariats donc, avec les acteurs des territoires. On a la volonté d'augmenter le cercle de nos collaborateurs locaux. Donc ça, c'est une des priorités du compteur. Et aussi, alors purement pour le développement du site, on a fait un gros travail de traduction et donc le site sera bientôt disponible en anglais. Et donc ça va aussi permettre de faire rayonner ce site un peu plus.
Merci beaucoup Hélène pour ces questions des éditeurs. C'est la fin de cette émission. Un grand merci à nos invités, notamment Jean-Philippe Delorme et Sylvie Gustave Guy Duflo, donc venus à Paris au salon de la biodiversité et du génie écologique pour nous présenter la réalité de vos territoires. Un grand merci également à Pauline Dussutour. Vous pouvez bien sûr réécouter le podcast de l'émission sur le site et l'application de Radio Territoria. Et quant à moi, je vous retrouve dans un instant à 11h pour une émission consacrée à la restauration de la nature. A tout à l'heure. Excellente journée à tous. Merci.
Vivez le Salon des maires et des collectivités locales du 19 au 21 novembre 2024 depuis le stand du gouvernement en partenariat avec Radio Territoria.